Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Juste un petit sondage. Qui est en socio ici? Vous pouvez lever la main s'il vous plaît?
Alors, prends la main. Oui.
Les autres, vous venez de quelle filière?
Psycho.
Ah bon?
Vous êtes la filière par
comment?
Colinger.
Colinger, ok.
Histoire.
Et Argon. Okay. Vous avez entendu parler de l'événement comment? C'est pour savoir avec vous. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord, Corentin.
Bonne ressource.
Ok. En fait, je voulais savoir s'il y avait beaucoup de médecine dans la salle, parce que moi, je me suis intéressé au don du corps à la science. Donc du coup, je me dis que c'est un peu un sujet qui pourrait intéresser les médecines, mais en fait, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas tant de médecine que ça. On va voir pourquoi. Je voudrais juste vous dire que j'avais déjà fait cette intervention l'année dernière, qui a été reportée, enfin bref, il y a eu des péripéties, mais ce soir, il y a mon père. Ouais, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vient faire là?
Parce qu'il est fier de toi.
J'aime avoir mon père avec moi. Non.
Tout mignon.
Non, c'est pas ça. Non, je vous dis ça. Je vous dis ça parce que je pense qu'il faut d'abord éclaircir un point qui est vachement intéressant dans les questions de recherche. C'est se demander pourquoi est-ce qu'un chercheur ou un étudiant, enfin comment vous voulez, quoi, travaille sur un sujet. Moi, j'ai décidé de travailler sur le don du corps à la science parce que mon père donne son corps à la science. Enfin, je suis pas forcément objectif. Non mais je vous dis ça parce que c'est drôlement intéressant. Je fais des parallèles avec une série. Alors on n'a pas le son, donc je passerai pas les extraits. Une série qui s'appelle The Knick sur l'environnement, le médical au 19e siècle. Et ce qui est vachement axé dans cette série, c'est que les médecins, les recherches qu'ils font, les derniers exemples c'était pour soigner la syphilis. C'est parce que le mec, il connaît quelqu'un qui a la syphilis. Donc un peu dans la recherche, ce qui va se passer, c'est que le chercheur, il va quand même s'investir de ce qu'il vit et de ses proches. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent ce que c'est que le don du corps?
Ouais.
Est-ce que je pourrais avoir 2-3 témoignages dans la salle de personnes qui pourraient me dire comme ça, un peu en freestyle, ce que c'est que le don du corps pour eux?
A priori, le don du corps, c'est à un moment payer 2 ou 3 000 euros, je crois, une somme comme ça, pour faire don de son corps à un laboratoire, enfin une association qui gère les dons du corps qui sont intégrés en général aux facultés de médecine pour que le corps soit utilisé après pour faire des expérimentations ou des cours dans les universités de médecine.
Alors là, dans ce que vient de dire Antoine, qui me connaît et qui me connaît bien, donc on a déjà discuté ensemble, le don du corps, ça fonctionne en lien avec les laboratoires d'anatomie. Le don du corps, c'est payant. Et le don du corps, ça sert à la formation initiale des étudiants. Est-ce que je peux avoir d'autres idées sur le don du corps?
C'est aussi un moyen d'éduquer proche de la
culture. Ouais, effectivement, là, je me souviens plus de ton prénom, mais effectivement, le don du corps. Mais les L2 que j'ai en cours, ils savent que je me souviens jamais des prénoms, alors c'est pas grave. Le don du corps, ça peut être une façon aussi d'éviter aux proches d'avoir à se soucier de la sépulture. Est-ce que d'autres personnes ont une idée encore de ce que c'est que le don du corps? Ou alors, je vais même vous poser la question autrement. En termes de classe sociale, vous pensez que c'est qui donne son corps à la science?
Les pauvres.
Les pauvres, les classes moyennes ou les riches? Alors, les pauvres, levez la main. Classe moyenne. Ah, et vous êtes pas très engagés. Hein. Les riches?
Si, on a le droit à deux choix.
Ouais, les riches, plus ou moins.
Ok, et tout le reste, c'est de l'abstention.
C'est indécent.
Ouais, là, c'est indécent. Alors, en fait, je vous pose ces questions parce que je suis parti d'un constat pas très empirique, un constat qui vient de la littérature, qui vient aussi des observations et des discussions que j'ai pu avoir avec les étudiants de médecine, témoignages que j'ai pu recueillir quand j'étais dans le laboratoire d'anatomie. C'est qu'en général, les gens, ils savent pas qui c'est qui donne son corps à la science. Ils savent pas pourquoi est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui décident de donner leur corps. Alors, je vous conseille pour vos présentations, Prédit, c'est vachement chouette. C'est beaucoup plus sympa que PowerPoint avec une Wiimote, ça fait le contrôleur. Ouais, vous avez vu, c'est extraordinaire. Et ça évite de se focaliser, enfin bref. Donc là, avec un cadre gris, pour montrer, c'est un peu tout ce qui est présupposé, un peu tout ce qui est de l'ordre des a priori. Donc, identité inconnue. C'est des extraits d'entretien, vous n'êtes pas obligé de les lire, mais c'est juste pour vous dire que, en règle générale, les gens ne savent pas. Ça, c'est un extrait d'entretien que j'ai fait avec une dame qui doit avoir une cinquantaine d'années, qui est une institutrice à la retraite, un peu plus de 50 ans, 55 ou 56 ans, et qui disait, mais les gens, ils doivent savoir que ça existe, et pourtant, personne n'en parle. Personne ne sait comment est-ce qu'on fait pour trouver l'information. Donc, qui dame ne sait pas. Les étudiants ne savent pas. Alors là, c'est trois étudiantes. J'avais filmé un TP d'anatomie. C'était sur. Extraordinaire. Je vous passe pas les films ce soir parce que c'est. Je pense que tout le monde n'apprécierait pas et je vous montre pas les photos non plus parce que je pense que tout le monde n'aimerait pas. Mais ça, c'est. J'ai, à la fin du TP de dissection des deuxième années, c'était sur. Celui-là, c'était sur la dissection de la cage thoracique. J'ai interrogé cinq étudiantes, comme ça, de façon informelle, pour savoir quel était l'état de leur connaissance sur le don du corps à la science. Là, ce qui est apparu, c'est que pour les trois, enfin, ils sont cinq, on en voit que trois, sur les cinq filles, il n'y en avait aucune qui savait vraiment comment ça se passait. La seule chose qu'elles savaient, c'est que c'était payant à tour. Ce qui est une information qui a été donnée par Antoine tout à l'heure. Mais en général, il reste quand même un truc un peu flou. C'est étonnant, hein, d'ailleurs. C'est vraiment étonnant que les étudiants ne savent pas. Moi, je trouve ça étonnant.
C'est pas un échantillon représentatif, enfin, les trois étudiants, en l'occurrence.
Alors, on peut poser l'interrogation. D'ailleurs, vous pouvez m'interrompre en milieu, parce que moi, je ne fais pas une présentation linéaire, je suis pour la discussion. Donc, ce n'est pas une. C'est un échantillon qui n'est pas représentatif, c'est évident. Ce n'est pas mon objet d'étude, la représentation de l'anatomie. Par contre, à défaut, je peux te dire que j'ai discuté avec 5 étudiants, j'ai discuté avec tous les étudiants de médecine qui viennent squatter notre rôle. Pour leur truc, pour aller financer un projet en Inde, là.
Excusez-moi.
Népal. Namasté. J'en ai rencontré dans le labo, j'ai discuté avec des gens, j'ai dû. Je pense qu'en étudiant, j'ai dû en interroger une trentaine, comme ça, de façon informelle. Lévin. On y reviendra parce que là, autrement, ça part. On va essayer de suivre un déroulement logique. Non, dans ce cas-là, pour répondre brièvement à cette question avant de la développer, on paye pour donner son corps à la science. C'est étonnant. Hein. Bref. Le corps médical ne sait pas. Échantillon toujours absolument pas représentatif. Les deux personnes que vous voyez en photo, là, c'est toujours. C'est ça aussi, c'est une image de film que j'ai faite. Ouais. Enfin bref, c'est un film que j'ai fait sur une masterclass. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une masterclass ? Ouais, non, masterclass, comment dire ? Dans ce cas-là, vous aviez un chirurgien qui connaissait une technique opératoire pour une pose de prothèse totale de hanche qui évitait de blesser les muscles. Je n'ai pas de notion d'anatomie. Est-ce que je peux ? Et du coup, dans la salle, vous aviez une bonne vingtaine de chirurgiens de toutes les nationalités, donc suisses, allemands, italiens, français, qui suivaient les cours de cette personne. Les masterclass, c'est de la formation continue. Alors vous avez la formation initiale, donc c'est la formation des étudiants, les masterclass, ça va plutôt être la formation continue des chirurgiens. Et ce qui est très révélateur, c'est quand j'ai discuté avec les deux techniciens, c'est les ouvriers qui sont en contact des étudiants, qui sont en contact des familles parce qu'ils viennent aux cérémonies, et qui sont en contact des chirurgiens. Ils ne sont pas représentatifs, mais c'est ce qu'on appelle en sociologie des interlocuteurs privilégiés, c'est-à-dire des interlocuteurs qui vont avoir une vision d'ensemble. Et là, ce qui apparaît, et ça me permettra de faire la transition avec la deuxième partie, c'est que les mecs ils disent, mais il y a encore des chirurgiens aujourd'hui qui croient que les corps qui dissèquent, ce sont des indigents. Indigents, vous savez ? C'est plus que pauvre. D'ailleurs, les personnes qui n'ont même pas un penny pour payer leur enterrement. Super intéressant. Quoi. C'est l'image qu'on en a. Ce qui me fait dire que cette image, elle s'inscrit dans nos a priori. Alors, bon, il y a des gens qui ont voté pour les classes moyennes et pour les classes supérieures. Moi, je suis parti de l'idée qu'on pouvait avoir un a priori sur les personnes qui donnaient leur corps à la science. Cet a priori, il est basé sur l'histoire. En fait, en sociologie, on sait qu'on est un peu construit par l'histoire. On va dire, ça paraît évident, quoi. On est dans un. Enfin, comment elle s'appelait là ? On est dans un pays judéo-chrétien et laïque. Morano, voilà, comme Morano.
Alors, c'est ça. Ça change de la présentation d'avant. Hein.
Vous
n'avez
pas que ça
on fait ça pour eux. Donc, la première représentation qu'on a, donc, c'est celle d'avoir des corps d'indigents. Ok. D'où ça vient ce fait de croire que les personnes qui donnent leur corps à la science sont des indigents. Mais ça, c'est un extrait d'un livre d'Émile Aron sur la construction de la faculté de Tours, la faculté de médecine de Tours. Et je vous ai pas mis toute la citation, mais grosso modo, c'était en 1826 ou 1827. Il y a eu un édit qui disait que toutes les personnes qui ne pouvaient pas payer leurs frais médicaux voyaient leur corps réquisitionné pour le laboratoire d'anatomie. Extraordinaire. Réquisition des corps chez les indigents. Mais alors, ça a toujours été comme ça, hein, je veux dire, mais ça a vraiment toujours été comme ça. Toute l'histoire de l'anatomie, avant 1945, allez, 46, on va dire, ça s'est construite sur ces corps-là. Deuxième représentation, qui marche plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus la peine de mort. Mais je suis sûr que si on avait encore la peine de mort, il y a des gens qui penseraient ça, les condamnés à mort. Ça, c'est. Vous pouvez peut-être pas le lire, je vais vous le lire vite fait. C'est un extrait d'un livre de Claudio Milanesi qui travaille sur la mort apparente et mort imparfaite. Et regardez cet extrait comme ça, où il y a deux femmes qui sont condamnées à mort pour avoir avorté. Donc, la condamnation à mort, c'était la noyade. Les femmes se réveillent, le bourreau les retue pour pouvoir revendre leur corps à l'université. Le business sur les condamnés à mort, c'est la majeure partie des premières dissections qui sont faites dans l'histoire. Et enfin, les victimes du body snatching, et là j'ai décidé pour illustrer ça, de vous mettre un extrait de Frankenstein. Parce que mon ami a supporté mes visionnages de Frankenstein et de tous les films d'avant 1930. Quand vous regardez Frankenstein, qu'est-ce qu'il fait? Il déterre un mort. Quand vous regardez, il y a plein de trucs comme ça. Vous avez vu les mains dans le lac? Non, c'est un condamné à mort cette fois-ci. Mais vous avez dans les représentations hollywoodiennes tout ce truc qui fait que le corps médical, quand il fait des expérimentations, il déterre les morts. Ce qui n'est pas faux. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le bouquin d'Henri Larron, vous avez Velpo. Alors, je crois que c'est Velpo qui parle de Bretonneau. Intéressant, hein, c'est quand même Place Velpo et Hôpital Bretonneau. Hein, c'est quand même deux gros trucs à tour, quoi. C'est pas des gens petits, quoi. Le mec, il dit, grosso modo, j'ai pas la phrase en tête, mais grosso modo, il dit, il reste encore du plomb dans les fesses de la dernière visite au cimetière qu'on a faite. Mais c'était hyper courant, quoi. Alors après, si vous voulez plus de détails sur tous ces trucs, mais d'ailleurs, c'est vachement rigolo, enfin, c'est pas rigolo, mais c'est... c'est un petit côté morbide intéressant. Le bouquin de David Le Breton, La Chère à Vite, est extraordinaire à ce point-là. Avant de passer au reste, des questions, des remarques.
C'était beau.
Qu'est-ce que c'est cet anglicisme là?
Ouais, c'est un anglicisme, mais c'est parce que... c'est un anglicisme. Body snatching.
Est-ce que t'as des références sur le business des condamnés à mort?
Sur le business des condamnés à mort? La Chère à Vite de Le Breton. T'as toute une partie là-dessus.
En Chine aussi, ça se faisait beaucoup.
Ouais, puis ça se fait toujours. Il y a eu l'exposition de Vanagel qui a été...
Ça a dû s'arrêter dernièrement quand ils ont mis en place le budget.
Mais pendant longtemps, ça s'est fait des gens qui sont condamnés à mort, justement, parce que derrière... Enfin, plus qu'à la normale, parce que derrière, vous avez
des gens qui sont...
Exact. Je peux continuer d'autres remarques? Alors, c'est là que je suis vraiment déçu, parce qu'il n'y a pas de son, donc je ne peux pas vous mettre cet extrait. Enfin, il y a des sous-titres, vous pourriez les lire. Mais c'est la série Zocnik, j'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc, je vous disais... ça se passe dans un hôpital qui s'appelle le CNIC, c'est à New York, au début du 20e siècle, donc 1900 et des brouettes. Dans cette scène-là, vous avez l'administrateur de l'hôpital qui arrive et qui dit « Il nous faut plus de cadavres, allez fouiller les hôpitaux psychiatriques, allez fouiller les hospices, allez fouiller, allez voir les condamnés à mort, allez en prison et tout ça, ramenez-moi un cadavre, je veux un cadavre. » C'était juste pour vous exemplifier justement cette pratique multiple. Cette façon de trouver des cadavres qui était plutôt multiple à l'époque. Je vous le mets pas, mais c'est dommage parce que c'est vachement bien. Alors après, il y a un truc, ça c'est à la limite ce que l'on pensait, ce qui était nos a priori sur le don du corps, mais il y a un truc qui marche aussi, c'est ce que l'on veut nous faire croire. Et je vous ai mis un petit cadratin, parce que c'est aussi ce que l'on veut croire. La nuance est très subtile. Ça c'est un extrait d'une brochure qui a été faite par, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin grosso modo, c'est les centres de don du corps de Paris. Et c'est le premier extrait que vous avez dans cette brochure. C'est pour aider la famille des donateurs à vivre le don de leurs proches. Juste pour vous la lire, « Maman était malade d'une maladie génétique, elle voulait donner son corps pour qu'on comprenne. » Est-ce qu'il y en a que ça fait... est-ce qu'il y en a qui dicte déjà ou pas?
Oui.
Vas-y, tu sais plutôt quoi?
A priori, elle voulait... donner son corps pour qu'on comprenne, à mon avis, il y avait un pourcentage de chance ultra infime pour que son corps serve à étudier la maladie dont elle était l'objet.
Est-ce que c'est l'opinion de deux personnes? Vous pouvez lever la main aussi. Ok. Ben c'est exactement ça. Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il va y avoir une problématique de paradigme. C'est-à-dire que d'un côté, le don du corps est un acte, comme on le verra, qui n'est pas forcément altruiste, mais dont la particularité, c'est de se donner à la collectivité, contrairement au don d'organes. Vous faites un don d'organes, votre cœur, il ira à une personne, il n'ira pas à 10 personnes. C'est pour une personne. Et la façon dont le don du corps est expliqué, et la façon dont le don du corps est vendu, si je puis dire, c'est justement de l'acter sur un service rendu à une personne. Ce paradigme, il peut se développer. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la solidarité organique et de la solidarité mécanique?
Oui.
les autres pour qui c'est pas clair. Grosso modo, en très bref, solidarité mécanique, c'est le 19e. Vous avez une chaîne, tout le monde est interdépendant. La société est interdépendante. Solidarité organique, c'est aujourd'hui. Nous sommes tous des individus éclatés, il n'y a aucune interdépendance. Hyper intéressant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors là, je voulais vous remettre un extrait de Zocnik parce que j'ai trouvé sur la saison 2 celui-là. Ouais. Et c'était. Non, mais c'est toujours pour vous acter que justement, quand on parle du don du corps, on a l'impression, on veut nous faire croire ou on croit qu'on va aider une personne. Et là, vous avez le héros qui est le chirurgien, qui est cocaïnomane et qui veut travailler sur l'addiction, qui trouve. Qui a possibilité d'avoir le cadavre d'une jeune bourgeoise qui s'est coquée à mort et qui du coup est morte. Et il demande à la famille s'il peut récupérer le corps. Et là vous avez ce truc de la personne qui va dire je suis pas tout à fait pour, comment est-ce qu'on va expliquer le fait qu'il n'y ait pas de sépulture. Et après il interroge la femme dans le couple, et la femme a dit mais j'espère qu'on va lui couvrir le visage. Je trouvais que c'était une bonne transition parce que vous avez aussi ce côté-là dans l'anatomie où c'est compliqué de demander le corps, mais on arrive à avoir un corps à partir du moment où on l'a dépersonnalisé. Vous avez une mise en scène du corps qui est vraiment énorme. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je vous ai dit avant 40, enfin, on a eu une pratique de l'anatomie particulière avant 45. Qu'est-ce qui s'est passé avant 45 ? Ouais, question piège, allez-y. Ouais, non mais carrément.
67, c'était l'augmentation du chômage. 45,
c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça peut vous paraître un peu anodin, mais il y a toujours dans le bouquin de Le Breton, vous avez un extrait d'une lettre de je ne sais plus qui dit vous, à l'université de je ne sais pas quoi, vous avez maximum 100 cadavres par an, nous à Auschwitz, on en a plus de 10 000. Génial. Ah, extraordinaire. Je veux dire, au niveau anatomique, la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez jamais eu autant de matériel que ça. Oui.
Mais ce que tu disais aussi, ça marque le fait qu'en Occident, et pour le coup c'est toi qui l'as appris, en Occident, c'est la mort qui marque le passage du sujet à l'objet. Alors que dans beaucoup de cultures, c'est pas nécessairement le cas. Mais nous, en Occident, on le voit, la mort, on est un sujet avant la mort. Par contre, à partir du moment où notre corps physique meurt, on devient un objet. Et la législation l'illustre relativement bien aussi.
Alors la question est hyper compliquée. Vous avez tous entendu ou pas la question ? Ok. À partir de la mort, nous sommes un objet.
En Occident.
Pour donner un contre-exemple, alors c'est vrai dans l'absolu, mais pour donner un contre-exemple, est-ce que vous savez comment est-ce que l'on qualifie une personne qui irait massacrer une pierre tombale ?
Un profanateur.
Est-ce qu'il y a des juristes dans la chambre ? Allez, je recueille les termes un petit peu. Quelqu'un qui profane une sépulture, comment est-ce qu'on l'appelle ? Comment est-ce qu'on qualifie cet acte ?
Non, c'est un acte criminel.
Vandalisme, c'est trop global. Profanation, c'est trop global.
Tu t'attaques à un individu, je crois.
C'est limite inculpé.
C'est pas loin.
D'un point de vue législatif, tu t'attaques à l'individu et à la mémoire de l'individu.
Ouais. Quand
c'est atteinte à quelque chose.
Ouais, c'est atteinte à cadavre. Si un jour vous profanez une sépulture, vous faites de l'atteinte à cadavre. On va considérer que c'est toujours un individu qui est en dessous. Et la pierre tombale est l'extension de l'individu. C'est juste pour donner le contre-exemple. Après, au niveau du corps, sur son statut légal, c'est sûr que quand on est vivant, on est un individu, quand on est mort, on est un objet. Reste la problématique de la définition de la mort. Une problématique qui touche à l'euthanasie aussi, d'ailleurs, je tiens à dire. Et sur ce point-là, je vais dire, c'est d'autant plus important. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'est définie la mort aujourd'hui ?
Je crois que c'est l'arrêt des signes vitaux.
Merci.
La cessation des
Est-ce que
j'ai blonde ? Non.
La mort cérébrale.
Aujourd'hui, c'est la mort cérébrale. Avant la définition, avant l'imagerie médicale, la définition de la mort, c'était la putréfaction. Non, c'est pas l'ébattement du cœur, parce qu'en fait, il y a des problèmes de définition. Des fois, on savait pas si le cœur battait vraiment ou pas. Donc, on considérait qu'une personne était morte après 3 jours. Parce qu'il y avait des signes de putréfaction qui arrivaient. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, il y a un truc qui est arrivé, c'est les immunodépresseurs. Les immunodépresseurs, ça fait en sorte que en fait, les greffes puissent être acceptées. On a créé des conditions techniques et technologiques nécessaires au don d'organes. Sauf que on a les conditions techniques, mais on n'a pas le matériel. La solution qu'on a trouvée pour avoir le matériel pour donner les organes, ça a été de redéfinir la mort avant la putréfaction avec l'imagerie médicale. Donc tu vois que la question de la mort, du statut, de l'objet et du corps est hyper compliquée et ça imbrique dans une tas de relations compliquées. Oui.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Antoine. Je pense que si on se réfère à la religion catholique, qui est celle que je connais le mieux, mais qui, à mon avis, n'est pas la seule, je pense qu'on peut mettre les trois ensemble, hein, judéo-chrétienne et musulmane, quand tu es mort, tout le rituel autour de l'enterrement, de la sépulture, etc., prouve bien que tu n'es pas simplement qu'un objet.
Oui, mais c'est la distinction par le corps.
Voilà.
Hein, le corps devient objet, pas l'âme. L'âme reste sujet, mais c'est parce qu'il y a une distinction corps-âme qui se fait pour le coup.
Oui, mais c'est plus compliqué que ça, mon avis.
Allez, on va faire de la théologie.
Allez, continue.
Il y a des mecs qui planchent sur la vie depuis plus de 2000 ans et nous maintenant faire ça.
C'est beau.
Allez, du coup, je vous le passe pas. Et on va arriver sur mon mémoire à proprement parler. C'est la présentation que j'ai faite pour mon mémoire en 10 minutes, mais ça fera plus de 10 minutes. Quelques éléments de contexte. Alors, je vous ai juste mis cette frise chronologique. L'association des dons. Alors, je vais vous faire d'abord à l'échelle nationale. En France, il y a 28 centres de dons du corps. Les centres de dons du corps, ils sont répartis sur à peu près l'ensemble du territoire, mais principalement dans les grosses métropoles. Au niveau législatif, pour donner son corps, il y a trois conditions, je crois que je m'en souviens plus que deux. La première, c'est qu'il faut que vous fassiez un papier disant que vous donnez votre corps à la science. Ça peut vous paraître banal. D'ailleurs, à qui ça paraît banal? Tout le monde est surpris par le fait qu'il faille faire un papier pour dire qu'on donne son corps. Alors, sachez que si ça peut vous paraître banal, et je vais vous le dire, et je vais peut-être vous l'apprendre ce soir, sachez que si vous n'avez pas déclaré que vous ne voulez pas donner vos organes, vous êtes tous donneurs d'organes. Ça veut dire que c'est exactement l'inverse. Bref. Donc il faut faire sa déclaration. Ah si, je me souviens des trois conditions. La deuxième, c'est que le corps, pour être utilisé par le laboratoire, il doit être rapatrié dans le laboratoire en moins de 48 heures depuis le décès.
On n'attend pas la putréfaction.
Ouais, on n'attend pas la putréfaction, c'est pas bien. Et le troisième, c'est qu'il faut que le corps, il soit, je vais dire, sain, c'est-à-dire que les malades du sida, les trucs comme ça, ils prennent pas. Parce que, c'est un peu normal aussi. Hein. Au niveau de l'organisation du don du corps à l'échelle nationale, vous avez une loi, alors, R363-13, qui dit que les universités, ce sont les établissements de réception qui ont à charge les frais d'inhumation ou de crémation. Ce qui veut dire qu'en termes législatifs dans la loi, c'est l'université qui doit payer pour les cadavres. Chose intéressante. Au niveau de mes autres organisations, non, à l'échelle nationale, vous avez plusieurs façons de traiter le cadavre une fois qu'il est mort. Il y a des universités qui ont construit, comme à Tours par exemple, un mémorial. À Tours, il se trouve à Évreux-sur-Inde. Un mémorial pour commémorer les donateurs. Le mémorial est strictement anonyme. Et ça rentre dans l'article je ne sais plus combien, qui précise que tous les éléments vivants doivent être... le donneur ne doit pas connaître l'identité du receveur. C'est anonyme. Vous avez des établissements qui pratiquent la restitution des cendres. Ce qui pose un problème. Et le problème, c'est qu'en fait, à l'échelle nationale, il n'y a pas assez de personnes qui donnent leur corps. Et quand vous avez 10 chirurgiens ou 20 chirurgiens qui doivent travailler sur la main, ils coupent les mains. Ouais, non, mais c'est ce qu'en fait, le démembrement. Le démembrement, c'est fait par quasiment toutes les universités de France, sauf à Paris, où ils ont suffisamment de corps qui rentrent pour ne pas avoir à pratiquer le démembrement. Mais vous avez des universités qui pratiquent le démembrement et qui rentrent des cendres, donc des cendres incomplètes. Ben, c'est un peu bloquant. Au niveau de l'association de Tours, la particularité, c'est justement que c'est une association. Si à Tours, le laboratoire d'anatomie fonctionne grâce à l'association, c'est parce que l'université a arrêté de payer pour les dons du corps en 1976. L'association s'est créée à la même époque. Pourquoi est-ce qu'ils sont créés en association? Est-ce que quelqu'un a une idée d'ailleurs de pourquoi ils sont créés en association?
Faire vivre un collectif.
Ouais. Ouais, comme nous dans la Casa, quoi, mais... Non, en fait, ils se sont organisés en association parce que du point de vue juridique, vous zoomez, article 363-13, l'établissement de réception doit prendre à sa charge les frais de crémation et d'inhumation. Mais si vous passez par une association, l'université elle est obligée de payer les frais de crémation puisque c'est pas elle qui reçoit les corps, mais l'association. Ouais, d'accord.
Qui les paye?
Alors, ce sont les donateurs. Et donc justement, à partir de 76, j'ai plus les montants exacts, mais je vois à peu près les dates. Vous passez sur un modèle où c'était 100% gratuit à 76, vous payez uniquement les frais de transport. Frais de transport, c'est pas compris dans la législation, hein, c'est souvent la charge des personnes. Après, vous avez en 95, l'augmentation à 400 euros. En 2002, augmentation à 900 euros. Et en 2012, augmentation à 1200 euros. Oui.
Comment
elle s'est justifiée,
ça, le fait qu'on doit payer
pour les... Alors, tous ceux qui sont à l'université savent que nous n'avons plus de sous. Non, mais... remarque très prosaïque. On estime que le coût de traitement d'un cadavre est à peu près de 1200-1300 euros. C'est là-dessus que se justifie cette somme. À Tours, il y a 250 personnes qui rentrent chaque année dans le laboratoire. C'est un des plus gros laboratoires de France, mais c'est quand même pas suffisant. 1200 fois 250...
Ça fait beaucoup d'argent.
Ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il faut imaginer que le fonctionnement, si les coûts n'étaient pas supportés par les donateurs, la fac ne pourrait pas, ou ne veut pas, pas la même chose, mais ne veut pas, débloquer 300 000 euros pour les universités pour le don du corps. Façon de pallier ce problème-là, organisation en association, on fait reporter le coût du don du corps sur les donateurs.
Mais j'étais en conseil du FR il y a pas si longtemps, donc les 300 000 euros, on les a pas. Hein. On a voté le budget, c'est mort. Voilà. Du budget. Le FR, j'ai confondu du FR et université, mais pas.
Est-ce qu'on les a pas ou est-ce qu'on ne veut pas les avoir?
Alors, ça, c'est vraiment sur ce point-là, je suis au conseil du FR aussi, mais on a les sciences humaines. Monsieur Buron nous disait qu'il y avait des bons investissements, du bon cholestérol, et des mauvais investissements, du mauvais cholestérol. Non, attendez. Qu'est-ce que l'on appelle un bon investissement? Un investissement, c'est quelque chose que l'on peut revendre après, parce qu'on aura gardé des sous. Un mauvais investissement, c'est du périssable. Typiquement, il est où Kevin? Il est par là-bas. Voilà. Comme il le disait, les professeurs, ce sont du mauvais investissement. Ils partent, l'université ne garde rien. Alors que acheter du matériel, c'est l'inverse. Les universités n'ont pas de sous. N'empêche qu'aujourd'hui, ce que tu vois dans les médias, ce que tu vois dans le monde et tout ça, c'est que pour l'imagerie médicale, ils ont des sous.
Moi, j'aurais envie de reprendre l'argument de Kevin, c'est-à-dire que c'est la capacité de l'université à te faire croire. Comme l'entreprise.
Ce que tu n'as peut-être pas dit, et qui a peut-être changé depuis, donc corrige-moi si je me trompe, c'est qu'on parle du cadet, tu parles à chaque fois de Tours, mais en fait c'est pour tout le Grand Ouest qu'il y a eu l'association de ça. Enfin, pas seulement Tours, il y a Angers aussi.
Non, Angers, ils ont leur propre laboratoire.
Non, alors il y a d'autres facs.
Non, à Angers, alors après voilà, on arrive sur autre chose qui est vraiment intéressant, c'est de savoir si le système de Tours est national. Le système de Tours n'est pas national. Le système en association, j'ai pas retenu tous les modes de fonctionnement, mais je sais que celui qui s'en rapproche le plus de Tours, c'est Lyon. Lyon est sur un système associatif sur lequel on répercute les coûts du transport et les coûts de frais de crémation sur les donateurs. Vous avez d'autres laboratoires qui fonctionnent autrement. Vous avez des laboratoires qui fonctionnent, et là c'est particulièrement intéressant parce que ça renoue avec l'histoire, qui ont des subventions municipales parce que les personnes qui donnent leur corps à la science, ce sont des indigents. Sachez quand même qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas de sous se fait enterrer pendant 5 ans, après fosse commune. Ce crédit-là sert pour le don du corps. La seule université, enfin je crois vraiment la seule qui fonctionne comme ça, c'est celle de Besançon. Le deuxième modèle économique, c'est celui où l'université prend effectivement à charge le don du corps. Ça reste relativement important. Par contre, il y a un point qui est particulièrement intéressant, c'est que dans tous les cas, même si l'université, ou même si la municipalité peut faire en sorte que le coût, peut faire en sorte que les donateurs n'aient rien à payer, il n'y en a aucune qui choisit de ne pas faire payer les donateurs. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Pourquoi est-ce que même si on a la possibilité de ne pas faire payer quelqu'un, on le fait quand même payer?
Parce qu'à partir du moment où on a vu d'autres exemples où les gens payaient, pourquoi à partir du moment où ils payent, supporter un coût qu'on voit que les gens assument?
Oh, le capitalisme là. Allez, autre hypothèse. Tout à l'heure, je vous ai posé une question à la con.
45.
Les laboratoires ont tous décidé de faire payer le don du corps et au moins les frais de transport pour être sûr que les personnes qui donnent leur corps à la science sont vraiment des donateurs et non pas des personnes qui en subissent cela. C'est hyper intéressant de voir que l'économie, c'est quelque chose qui permet de formaliser le contrat. Du coup, c'est la suite. Donc là, j'en ai dit beaucoup tout à l'heure. Hein. Juste pour vous dire, donc, les corps des donateurs, ils servent principalement à trois choses. La formation initiale des étudiants en médecine, la formation continue des chirurgiens par le biais des médecines, des masterclass, et la recherche. En termes de proportion, la recherche, c'est à peu près, je crois, à l'échelle nationale, il me semble que c'est 25% des corps qui sont utilisés pour de la recherche. Sachant que la recherche, c'est hyper vaste. Hein. Ça peut être un mec qui fait sa thèse sur le cerveau, ça peut être des biomécaniciens qui vont travailler sur la résistance des os, ça peut être, d'ailleurs vous avez eu la polémique, les cadavres étaient utilisés pour les crash tests. Non mais ça fait rire et ça peut sembler choquant, mais quand vous entendez les mecs du labo parler, ils vous disent mais de toute façon on peut créer tous les mannequins qu'on veut avec tous les capteurs, on n'aura jamais de meilleurs résultats d'études qu'en ayant un vrai bonhomme qui se fait enfoncer, enfin mort quoi, mais qui se fait, enfin on voit bien les lésions quoi. Bon du coup vous voyez la recherche est assez vague. S'il y a des gens qui s'intéressent à la méthodologie en sociologie ou c'est vous, qu'est-ce qui pique ?
Non bah si,
en très bref, vous n'êtes pas obligé de regarder, j'ai fait cet entretien avec, j'ai fait cet entretien mais avec 9 personnes parce qu'il y avait des couples, les donateurs sont des personnes âgées. Ils s'inscrivent en moyenne à 55 ans. Leur moyenne d'âge est d'à peu près de 84 ans. Donc, essayer de faire des entretiens avec des petits vieux, c'est pas toujours facile. Au téléphone, ils ont peur que vous les agressiez. C'est vrai. Et on dirait qu'il faut que vous soyez bien habillés. C'est important. J'ai fait 5 observations que j'ai filmées. Donc, dissection des membres. Observation, c'est pas filmé, c'est dissection des membres moteurs chez les deuxième année. Autre observation, la masterclass sur la technique de PTH, un TP dissection de la cage thoracique, j'ai participé à une AG et puis j'ai vu une cérémonie commémorative. Les interlocuteurs privilégiés, on en a parlé tout à l'heure, donc le président de l'association qui s'appelle Christophe Destrieux, qui est un type extraordinaire. Et rarement vu quelqu'un d'aussi sympa et qui ouvre aussi facilement. Voilà. Mais vraiment, je tiens à le dire, il est pas là, mais. Madame Rougeron qui est la secrétaire de l'association, les deux techniciens et Julien Bernard et Catherine Legrand-Séville qui sont deux sociologues, donc Catherine Legrand-Séville de la Viable et Julien Bernard de Paris Nanterre qui ont travaillé sur le don du corps pour une commande des pompes funèbres parisiennes. Ils sont juste super sympas. Voilà. Au niveau quantitatif, parce que c'est ça que je vous ai pas dit tout à l'heure, on était sur une méthode qui était plutôt qualitative. Moi je me suis basé sur une méthode qui avait une double entrée, c'est-à-dire une méthode qualitative avec les entretiens et les observations comme on fait dans la sociologie. Et il y a des L2 beaucoup ici ou pas ?
Oui.
Ah ouais, il y a des L2. Et la méthode qualitative que vous peinez à la fac et que vous ne payez pas parce que c'est des statistiques et des chiffres.
Quantitative,
excusez-moi. Et moi j'ai du mal avec. Donc j'ai analysé la base de données de l'association. Donc c'est une base de données qui est anonyme, il n'y a pas grand chose dedans comme information parce que c'est pas fait pour un sociologue. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que j'ai au moins 24 000 personnes. On sait bien que la taille de l'échantillon, c'est ce qui fait aussi la pertinence de ces résultats statistiques. Et après, bon, une bibliographie, je vais vous passer parce que c'est un peu long, il y a plein de trucs bien. Donc, ça m'a amené à me poser deux grandes questions. Qui sont les donateurs et pourquoi est-ce qu'ils donnent leur corps à la science ? Pas compliqué comme question. A priori, c'est bien la simplicité parce que si vous faites un truc trop compliqué, c'est difficile. Pour répondre à ces deux questions, décider de traiter 6 thématiques. Le sexe, l'âge, le profil socio-économique, la mobilité résidentielle, le passif médical et la croyance. Des entretiens que j'ai réalisés et des statistiques que j'ai pu tirer de la base de données, j'ai ces 6 thématiques qui apparaissent. Donc là, logiquement, je vais vous présenter ces caractéristiques.
Pourquoi la mobilité ?
Pourquoi la mobilité ?
Bah, je te le présenterai comme ça tu sauras. Non, alors je peux te le présenter maintenant, mais je vais passer un peu du coup devant. Vous voyez, c'est vachement bien la même matin. Raison pratique, mobilité. Ok. Donc les L2. Les L2, je tiens à dire que je l'ai refait pour vous hier soir. Au début, mon graphe il était pas comme ça, il était vachement plus simple. Alors j'aimerais qu'il y ait un L2 qui vienne ici et qui mixe ce tableau. Non, grosso modo, la question de la mobilité, en fait, c'est très simple. Alors, vous voyez pas tous, hein.
C'est quoi que t'avais mobilité ?
La mobilité résidentielle. Et d'ailleurs, je préciserai plus que la mobilité résidentielle, c'est la mobilité entre... C'est deux points. Lieu de naissance, lieu de vie au moment de l'inscription. C'est absolument pas un parcours. J'ai que ces deux données-là. Donc, je me suis demandé... La question d'intrigue croisée basique.
Pourquoi il y a t'as rouge des 0 comme 0 parce que j'ai un truc.
Non, 0, en fait, le 0 est arcodage. Voilà. Bon, de façon. Le 0 est arcodage. Le 0 est arcodage pour dire autre département.
Ah.
Voilà. Donc je me suis demandé si le département. Question très bateau, question très psychologique, mais je ne l'utilise pas comme ça. Est-ce que le département de naissance influe sur le département de vie au moment de l'inscription? Vous voyez là, cette belle diagonale comme ça, c'est tellement tautologique que forcément vous avez une diagonale. Effectivement, le département de naissance influence le département de vie au moment de l'inscription. Par contre, moi ce qui m'a intéressé, c'était d'avoir les pourcentages, d'avoir la somme des personnes. Et en fait, j'ai remarqué que vous avez 65% des donateurs qui ont changé de région ou de département de naissance, ou de département entre leur naissance et leur inscription à l'association. Ça veut dire que sur les 22 000 personnes qui sont référencées dans cette base de données, 65% ça fait combien? Ça fait à peu près 16 000 personnes qui n'habitent plus dans le lieu de leur enfance. Et là, je vais vous poser une question participative. Celui de l'année dernière, je vous l'avais déjà dit, donc j'ai prié de ne pas tout spoiler. Qu'est-ce que nous avons dans nos lieux familiaux? Nous avons tous des lieux familiaux ici. On vient tous de quelque part, on a peut-être tous changé, on a toujours nos parents et nos grands-parents. Comment ?
C'est quoi que tu appelles un lieu familial ?
C'est ce qu'on appelle un espace de fondation, relatif à la biographie de l'individu, relatif au nom de sa famille. Moi par exemple, mon espace de fondation, je viens du Sud, je suis arrivé à Tours il n'y a pas très longtemps, même si j'y retourne pas souvent, c'est le Sud. Mais qu'est-ce qu'on a dans ces espaces de fondation ? Qu'est-ce qu'on a de très pragmatique ? Alors les souvenirs c'est une chose. Moi je parle pas des souvenirs, je parle de quelque chose de beaucoup plus encore une fois prosaïque.
Matériel.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme matériel dans ces espaces de fondation?
L'ancrage familial.
Eh c'est trop symbolique ça.
Référencement administratif,
non, j'accepte pas.
De l'argent,
non, ça transite aujourd'hui avec le capitalisme.
Le réseau familial.
Réseau familial, c'est symbolique.
Des biens. Qu'est-ce que vous faites le 1er novembre? Qu'est-ce qu'on fait dans vos familles le 1er novembre?
C'est la fête des
signes.
C'est le 2 novembre, la fête des signes.
Non, mais bon, passe le pas entre le 1er novembre.
Alors, la réponse à la question a été toute simple. Les cimetières. Là, moi, dans mon exemple personnel, on est à 800 km des cimetières, des caveaux familiaux. Du côté de mon père, on est à 3000 km. Et encore, on n'est pas sûr qu'il y ait des caveaux familiaux. Non, mais c'est intéressant. Hein. Une des raisons pour lesquelles la mobilité est un facteur qui peut être explicatif, et là, c'est ce que j'ai mis sur cet entretien, mais c'est comment est-ce que vous voulez que les enfants qui risquent d'être mobiles puissent entretenir la tombe de leurs parents? Mais plus que ça, le problème de la perte de la stèle familiale ou des caveaux familiaux, c'est la perte de la mémoire de ses ancêtres. Vous n'avez plus de lieu physique sur lequel vous pouvez vous rappeler de la lignée de laquelle vous venez, c'est exactement ça. Donc le don du corps peut s'expliquer, enfin, les motivations des personnes à donner leur corps peut s'expliquer en partie par la forte mobilité résidentielle du donateur. Perte de l'espace de fondation et d'espace de référence, abandon de l'espace physique, pas de volonté de sépulture, incinération dans l'anonymat. Et j'irai même plus loin parce que cette année je travaille sur les causes de défection, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les personnes se sont désinscrites. J'ai travaillé sur la mobilité, encore une fois. La mobilité résidentielle des personnes qui sont désinscrites est moins importante que celle des personnes qui sont encore inscrites. Il apparaît donc, enfin moi ça me semble être la conclusion la plus évidente, c'est que le fait d'avoir changé de région, le fait d'être déraciné, c'est un élément qui va pousser les gens à donner leur corps à la science. Hypothèse, hein, à vérifier. Je pense pas que c'est une place hyper importante, mais je pense que ça joue beaucoup. Donc je vais en revenir à autre chose. Sauf si vous avez des questions, pardon, parce que...
Il y a quand même une majorité de personnes qui s'inscrivent dans le don du corps
et qui reste dans la région. C'est 55%.
Non, c'est 45%. T'as 45% des personnes. C'est, non, et la mobilité, c'est hyper important. Je ne vais pas le détailler ce point-là, mais je travaille toujours sur défection. Les personnes qui sont âgées ont tendance à plus les inscrire que les personnes qui sont jeunes. Pourquoi ? Et c'est principalement les femmes d'ailleurs. Pourquoi ? Les femmes vivent plus longtemps, les femmes ont une meilleure liaison avec leurs enfants, je ne vais pas vous faire la bibliographie et tout ça, les femmes déménagent pour retrouver la région de leurs enfants. Si tu as un déménagement, si tu as une mobilité, ça influe complètement sur le don du corps à science.
Mais du coup, tu parles du fait qu'il y a une stèle familiale, est-ce que, je sais pas du tout, en France, est-ce qu'on a plus de 30 ans que ça fait faire ? On dirait que la crémation, que tous les autres rites qu'il peut y avoir
Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que, il me semble, je crois que la crémation aujourd'hui, ça peut faire 25%. Sauf que, il y a un élément de contexte qu'il faut avoir, c'est que la génération des donateurs, c'est plus celle de...
Oui, nos parents.
Non, enfin presque nos grands-parents, ça dépend quel âge ont tes parents, mais c'est presque nos grands-parents, c'est 70 ans à peu près. 70-80 ans. Est-ce que vous savez ce qui a été particulier pour les personnes de plus de 70 ans? Une modification législative sur les cimetières hyper importante. Non, je vais vous le dire si vous pouvez pas le savoir si vous savez. Enfin bref, un peu spécial. La génération de nos grands-parents, c'est une génération qui a acheté sa place au cimetière. C'était les concessions à perpétuité. On considérait qu'il était possible de s'acheter un bout de terre pour reposer toute la vie.
Enfin, toute la vie, toute l'éternité.
Toute l'éternité.
Ouais, toute la vie, la vie, les filles, la...
Toute la vie de l'enfant. Et, sauf que, problème, engorgement des cimetières. Donc, évolution législative, on a dit, si les descendants ne viennent pas entretenir la sépulture quand on constate qu'elle est abandonnée, fosse commune. Aujourd'hui, on simplifie carrément le truc. 50 ans maximum de location d'un emplacement dans un cimetière, au-delà de 50 ans, si c'est par conduit, fosse commune. Donc cette génération-là est une génération qui a été particulièrement marquée par des espaces physiques qui appartiennent à la famille et qui sont une propriété privée, qu'ils ne peuvent plus entretenir, donc du coup tout le monde se retrouve à la fosse commune. Et là tu sais que je pense que c'est pas facile pour des gens de se dire je peux pas aller entretenir donc je sais qu'ils vont finir dans la fosse commune. Enfin, c'est peut-être plus difficile que de le faire tout seul, enfin je sais pas. Caractéristiques sociales des donateurs. On change, là c'était les caractéristiques, les motivations...
La mobilité.
Ouais, non, c'était les motivations vraiment importantes opérationnelles. Là, sur les caractéristiques sociales, bon, les premières qu'on a toujours dans une base, c'est le sexe et l'âge. Alors, j'ai mis les deux ensemble, vous allez voir pourquoi.
Non, je sais pas.
Donc, le nombre de donateurs inscrits, donc, ce que je vous disais, c'est qu'au niveau de l'âge, c'est plutôt du 80 ans avec une moyenne d'âge à l'inscription, c'est que 70 et 55, j'ai refait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du sexe, dans la base de données, on a 57% de femmes et 43% d'hommes. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus sympas que les hommes et donnent leur corps plus facilement ?
Non.
Est-ce que vous connaissez tous le paradigme du care, la théorie du care ? Carol Gilligan qui dit grosso modo la femme a été habituée à prendre soin de son mari, a été habituée à prendre soin de sa maison, et donc du coup on va prendre soin des autres. Première explication mais qui n'est pas la bonne, les femmes donnent plus leur corps à la science parce qu'elles sont en souci du care, pourquoi pas. Mais c'est pas ça. Voilà. Nous aussi les hommes nous sommes sympas. Parallèlement à cette question de l'équilibre des sexes, il y a cette question de la structure démographique. À 70 ans, la structure démographique française, c'est pas la même que quand on vient de naître. Vous savez qu'il y a 104 hommes qui naissent pour 100 femmes. À 70 ans, on voit pas très bien, mais vous avez... J'arrive pas à dire. Je crois que c'est genre 45% de femmes pour... 55% de femmes pour 45% d'hommes. Vous avez moins d'hommes dans la structure démographique française. Du coup... Ouais, pas si on peut... 46-53, j'étais pas très loin. 70 ans, mais 80 ans, c'est exponentiel après. Hein. Les hommes, nous, on tient pas la route. Hein.
Voilà. Ouais, enfin, vous la tenez de mieux en mieux.
Ouais, parce
donc
que,
il y a de l'espoir.
C'est elle qui travaille de plus en plus, donc elle la tienne de moins en moins. Non, autre sujet. Donc du coup, je me suis dit, mais peut-être que le nombre de femmes plus important, il n'est pas lié au fait que les femmes donnent plus leur corps à la science. Il est peut-être lié au fait qu'il y a juste plus de femmes. Et effectivement, on se rend compte que... C'est très simple, mais c'est cette courbe-là, et en fait, c'est parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et en fait, j'ai fait ce que j'ai appelé un rééquilibrage par la structure démographique, c'est-à-dire que j'ai compté qu'il y avait le même nombre d'hommes et femmes dans la structure démographique en fonction de l'âge, et on voit qu'au-delà de 80 hommes, proportionnellement, ce sont les hommes qui sont plus nombreux que les femmes. Vous avez moins d'hommes, mais proportionnellement, vous en avez plus. C'est Allez, c'est un tour de passe-passe de démographie à deux balles. Et je fais une dédicace à M. Novik. Ok, je comprends pas ça avec une fusion, c'est chiant. La PCS. Alors nous, en sociologie, surtout Kevin aime bien les rapports de classe. La classe sociale, j'ai envie de dire, c'est un peu un SEM, c'est un peu un incontournable dans les unités sociologiques. Ah, moi, le problème, c'est que je peux interroger 8 personnes, mais 8 personnes, j'aurais pas de kido. J'aurais pas de kido dans ces problèmes de ça. En interrogeant 8 personnes, je ne sais pas si les personnes que j'ai interrogées, ce qu'elles vont dire, c'est lié au hasard ou pas. Donc, c'est un peu limité. Donc, moi, j'ai fait une hypothèse. C'est que, sur la base de données de l'association, j'ai le nombre de désinscriptions par année. Est-ce que vous remarquez quelque chose d'assez particulier sur ce graphique?
95,
vous avez quasiment 732 désinscriptions. Les autres années, vous plafonnez à peu près, on va dire, en moyenne à 70 désinscriptions. 95, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être. Non, 95, première grosse augmentation. Vous avez vous passez de payer les frais de transport à 400 euros de l'adhésion. 95, 732 personnes qui se désinscrivent. 2002, augmentation à 900 euros, vous avez 460 personnes qui se désinscrivent. 2013, augmentation à 1170, vous avez 199 personnes qui se désinscrivent. Le postulat que je ne peux pas vérifier, qui est invérifiable, un petit peu, mais dans ce contexte-là pas vérifiable, c'est que les personnes qui sont désinscrites, c'est les personnes qui le faisaient pour une raison d'argent. Pas assez logique d'ailleurs. En l'occurrence, je pense que les personnes qui le font pour des causes financières, ce ne sont pas les bourgeois. Ce ne sont pas les personnes qui ont un capital économique, ce sont plutôt les personnes qui seraient défavorisées. Mon hypothèse, qui se vérifie par l'étude de la défection, mais je ne vais pas tout vous faire, c'est que grosso modo, et c'est ce que j'ai appelé en fait un processus de gentrification de l'union du corps. On l'emploie en mobilité, mais en fait vous avez un embourgeoisement des personnes qui donnent leur corps à la science. Avant, c'était une pratique qui était réservée aux plus pauvres, enfin réservée, c'est-à-dire qu'on leur imposait même. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est investie par les classes supérieures. Tout simplement parce qu'il faut avoir le patrimoine économique pour dire bah, « je me donne 1170 euros ». Sachez quand même que j'ai fait faire le devis auprès des pompes funèbres intercommunales de savoir combien coûtait une crémation classique, la moins chère avec le cercueil le moins épais. C'est 1600 euros. Donc vous voyez que là, la différence d'argent entre une crémation classique et une crémation par biais de l'association n'est pas énorme. Donc grosso modo, par rapport aux personnes qui pensaient que c'était plutôt des classes supérieures, aujourd'hui c'est plutôt... que c'était plutôt les classes populaires qui donnaient leur corps à la science, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. C'est un peu ce qu'on trouve... Alors il y a pas... c'est un truc que j'ai pas dit, mais vous savez, vous faites souvent de la recherche bibliographique. On est content quand on trouve plein d'articles. Moi j'ai rien trouvé. J'ai trouvé le rapport de Catherine Laurent-Séville et Julien Bernard, qui m'est arrivé au milieu de l'année parce que renvoyé par M. Vestrillon. J'ai cherché à la BU, ça va. J'ai cherché sur les Cairns, sur Percé, j'ai cherché partout. En ressources francophones, vous n'avez rien. Les bébés morts, vous avez. Le don d'organes, vous avez. Bref, tout ce qui touche un peu au sensible, vous l'avez. Par contre, le don du corps, vous avez que dalle. Là où vous trouvez des informations, c'est sur un réseau d'ailleurs que je vous incite à aller voir parce qu'en plus ça casse les couilles à l'université, c'est Research Gates, le portail de la recherche, quoi, grosso modo. C'est un site, c'est un réseau social de chercheurs anglo-saxons. Ce qui est super bien, c'est que tous les chercheurs, ils donnent leurs articles, alors soit ils les mettent en accès libre, soit ils vous les envoient quand vous leur demandez. C'est international, donc vous avez toutes les visions. Moi je me suis beaucoup basé sur un texte d'une anthropologue hollandaise qui a travaillé sur le don du corps en langue, qui est extraordinaire. Et vous n'avez d'informations sur le don du corps que dans la littérature étrangère. C'est impressionnant. Moi, il y a une question que j'ai pas développée au mémoire, mais que je trouverais intéressante à poser, c'est l'ancrage économique du don du corps. Là, j'en discutais avec donc, le président de l'association, M. Destrieux. Et pour donner un contre-coup de ce que j'ai dit, parce que je dis que c'est payant, et je suis un peu critique vis-à-vis de ce fait de payer, c'est la seule solution qu'ils ont. Ils sont acculés par ça. Si vous voulez avoir des médecins qui soient formés, qui soient bien formés, il n'y a que cette solution-là qui marche aujourd'hui. Par contre, ce qu'il me disait, c'est que vous avez régulièrement des entreprises privées. Alors la privatisation des services funéraires, c'est 93. C'est récent quand même. Vous avez des entreprises privées qui font pression sur l'association pour récupérer les corps des donateurs. En donnant l'exemple d'une personne qui décède, une entreprise privée X récupère le corps, le met dans une chambre funéraire, la famille vient se recueillir, et merde, 48 heures sont passées, donc on récupère le corps et on s'en occupe. Non mais c'est vide, hein. C'est vide et c'est vicieux. Mais il y a un réel ancrage économique. Après vous avez d'autres problèmes, par exemple. Le don du corps, beaucoup de gens en avaient entendu parler avant de venir. À part la casa, quoi. Vous n'avez pas de publicité. Vous n'avez pas de publicité. Vous savez pourquoi vous n'avez pas de publicité? Parce qu'on n'a pas le droit de faire publicité sur les dons du corps. Mais, où est-ce que commence la publicité? Et où est-ce que commence l'information? Moi, mon hypothèse, c'est que le législateur, il n'a pas trop envie d'emmerder les entreprises privées, parce qu'il y a 60 millions de clients potentiels. On met le don du corps un petit peu sous le tapis, et on promeut une logique capitaliste.
C'est ça le capitalisme.
La boucle est bouclée, hein.
Ouais, t'as vu, hein. Ça c'est une question à se poser, hein. Mais c'est, je pense que c'est d'ailleurs c'est un peu le nœud du problème, mais bon. Donc raison pratique, je vous passe la mobilité. Donc mobilité transgénérationnelle, hein, pour le problème des enfants et tout ça. Le passif médical, alors ça c'est génial. Sur la base de données, j'ai quasiment rien sur le passif médical, je crois que j'ai à peu près 30%. Si. J'ai 30% des 22 000 personnes sur lesquelles il y a ablation du je sais pas quoi, triple opération du machin, pontage du truc. Les mecs, ils ont des grosses opérations, quoi. J'en ai pas beaucoup. Après, sur tous les entretiens que j'ai pu faire passer, je suis tombé sur deux cas de figure. En général, je suis tombé sur des hommes, ils se sont fait ouvrir de tous les côtés. Les mecs, ils sont passés sur le billard, mais plein de fois. Mais quand je dis plein de fois, c'est plein de fois, quoi. Ils ont passé au moins la fin de leur... Enfin, la première partie de la fin de leur vie à l'hôpital. Deuxième cas de figure, et c'est particulièrement vrai dans le cas des couples, la femme n'a pas grand-chose, parce que la femme, elle est quand même en meilleure santé. Elle n'a pas travaillé toute sa vie. La femme n'a pas forcément été opérée. Mais c'est là que c'est intéressant. C'est que le passif médical, chez les donateurs, c'est une façon... Enfin, pour les personnes, donner leur corps à la science, c'est une façon de remercier l'institution médicale, nos sauveurs, pour leur avoir permis d'allonger leur durée de vie ou au moins de la vivre un petit peu mieux. Non mais c'est très clair, je veux dire, cet aspect-là du don du corps, il est évident, c'est un don qu'on ne fait pas forcément dans un truc altruiste pour on sait pas qui. Dans les entretiens, ce qui ressort clairement, c'est qu'on le fait pour le corps médical parce qu'on veut les remercier, parce qu'on a passé sa vie à l'hôpital. Mais ce qui est génial, c'est que les femmes qui ne sont pas fait opérer, elles projettent les opérations de leur mari sur leur volonté du don du corps. Mon mari s'est opéré, grâce à vous j'ai pu l'avoir avec moi plus longtemps, donc je donne mon corps à la science.
Tellement beau.
Non mais c'est intéressant justement, on est sur une éthique qui... On n'est pas sur un don qui est... où c'est la personne concernée qui donne directement, on est justement sur un don où on peut y avoir des proches qui le font aussi. Et j'ai une famille comme ça où ils donnent tous leur corps à la science, quoi. Et c'est assez marrant, quoi. Voilà. Et donc, ça m'a conduit à repenser, donc vous verrez pas grand-chose non plus, le paradigme du don contre don. Don contre don, tout le monde ?
Moss.
Ouais, super. Un pas de plus. Ah ouais, aujourd'hui, ouais, voilà. Grosso modo, même dans les sociétés non capitalistes et qui n'ont pas d'argent, les rapports sociaux sont fondés sur le don contre don. Je te donne une bière, un demi, si t'as un mec bien, tu me rendras une pinte. Ça veut dire que tu auras plus de pouvoir que moi. Don contre don. Un don nécessite systématiquement un contre-don plus important, sauf quand c'est le roi, enfin bon, ça va passer là.
Au moins égal.
Mais au moins égal, si ce n'est plus important. Donc moi j'ai repensé ce paradigme, parce qu'on dit quand même don du corps. Don du corps, faut payer, c'est bizarre quand même. Donc en fait, effectivement, c'est un don des donateurs vers la médecine. Il y a effectivement un contre-don, en France, très faible, mais qui existe, de la médecine, de l'institution médicale, sur les donateurs, et ce contre-don, il se marque par l'érection en 2008 quasiment systématique de mémoriaux dans les cimetières. Avant 2008, vous n'aviez aucun mémorial pour les donateurs. Vous avez une reconnaissance de l'institution médicale pour ce qu'ont fait les gens en faisant un mémorial. Mais ce schéma du don contre-don, il est beaucoup plus compliqué que ça, parce que vous avez les donateurs... J'ai un peu planté dans mon truc. Mais le contre-don aussi de l'institution médicale, c'est un contre-don qui peut se passer aussi en progrès médicaux. Quelque chose qu'on ne peut pas palper. Et donc en fait, vous êtes inscrit dans deux paradigmes. Dans un don contre don envers une institution, avec de l'informel, et dans un don contre don avec des acteurs physiques, vos enfants. Vous donnez votre corps à la science, mais bon, ça peut être pour que vos enfants, ils n'aient pas d'enterrement. Là, c'est ce que ma soeur disait tout à l'heure. C'est un don. C'est pas forcément évident de laisser ses enfants la charge d'une sépulture. C'est un don. Il n'y a pas forcément de contre don. C'est un don pour les anatomistes et les chirurgiens, ça leur permet de s'entraîner. Il n'y a pas forcément de contre-don, mais il y en a. Et c'est d'autant plus intéressant cette question-là que c'est propre à la France. Hein. c'est propre à notre société un peu occidentale, quoi. On a l'impression qu'on leur fait payer, c'est très bien. J'ai lu un article sur le don du corps en Chine. Don du corps en Chine, 70 personnes annuellement très peu de corps. Alors, les étudiants, ils font tous partie de l'association. Les étudiants, ils viennent tous aux cérémonies commémoratives. Les chirurgiens, ils y vont aussi. Tout le monde est concerné. Aujourd'hui, à Tours, en France.
À Tours, il y a monsieur Destrieux, monsieur Velu.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et la famille.
Là, c'est drôlement intéressant. Tu vois, le don contre don s'exprime aussi par les valeurs qu'on investit dans l'acte. Et en France, absolument pas reconnu, parce que de toute façon, les liens, on sait pas qui c'est.
C'est totalement vrai, nous on ne sait pas de quoi sont morts les patients, on ne sait pas comment ils sont suivis après, et on ne sait pas après ça ce qui se passe, mais c'est parce qu'on nous a pas dit, c'est pas parce qu'on s'y intéresse pas.
Oui, mais le fait est que la com en médecine, je ne l'ai pas très bien réussi, c'est un fait. Cela dit, rien ne vous empêche d'aller demander, au cours, je crois qu'on m'a dit que vous l'avez dit en cours de médecine légale, de demander plus de précisions. Moi j'en ai discuté avec Maël Lemoine, qui est professeur de philosophie à l'université de médecine. Il m'a dit qu'au début de sa carrière, il parlait de la mort, il a arrêté de parler de la mort parce que les étudiants ne le voulaient plus. Mais quand tu parles avec les deux techniciens du laboratoire, ils me disent « moi, j'ai très peu d'étudiants qui viennent me demander comment ça se passe ». Je veux dire, c'est pas parce qu'on vous dit pas, c'est pas parce qu'on vous dit pas que vous n'avez pas besoin de demander.
Mais pour qu'il y ait un mouvement social qui s'amorce, il faut qu'il y ait une étincelle, quelque chose.
Je suis l'étincelle. Je compte sur toi pour faire la com' auprès de tes camarades.
Tu veux intervenir à
la médecine ? Donc du coup je vais passer sur ce don contre don parce que j'ai mal fait mon zoom et puis je m'en souviens pas très bien. La croyance en 4 points. Alors à votre avis, les personnes, ils ne vont pas lire.
Ils sont athées.
Vous avez pas eu le temps de lire. Est-ce qu'à votre avis, il faut être athée pour donner son corps à la science ? Alors oui, levez la main. Non, levez la main. Bon, alors là, ça va être non-réponse. Effectivement, on peut être athée pour donner son corps à la science, c'est la solution la plus prévisible, on va dire. La personne n'a pas forcément de croyance ou investit ses croyances dans autre chose. Dans la croyance qu'il n'y a pas de vie après la mort, par exemple. Et du coup, l'athéisme peut être une facilité pour donner son corps à la science. Mais il apparaît que... Est-ce que vous pensez qu'on peut être chrétien et donner son corps à la science ?
Oui, justement.
Est-ce que vous connaissez la position de l'Église sur le don du corps à la science ?
J'imagine qu'ils sont contre.
Est-ce que vous connaissez la position de l'Église sur sur le don d'organes ?
Ils sont pour.
Ils sont pour. Alors l'Église ? Catholique ? Papa, non ? Le
Vincent ? Moi qui allais contre l'acclamation, hein,
contre, non, l'acclamation est acceptée maintenant.
Oui,
alors l'Église est contre le don d'organes, pour le don d'organes et contre le don du corps.
Ouais.
Est-ce que vous savez... Quelle est la première cause pécamineuse, le premier péché dans la Bible ?
Dans le temps de la Bible ou dans le plus fort, le plus puissant ?
Le péché le plus important chez les catholiques. Non, c'est pas un péché, ça c'est une je vais vous illustrer, je suis le meilleur. C'est
l'orgueil.
Péché d'orgueil. Complètement péché d'orgueil. Y a pas un truc qui vous choque dans les cimetières ? Les cimetières, vous trouverez jamais une place aussi orgueilleuse qu'un cimetière. Les mecs, ils sont morts, t'as l'impression qu'ils sont fait construire une maison plus grande que celle de leur vivant, quoi. Vous allez dans les cimetières, vous avez des mausolées, vous avez du marbre, vous avez plein de trucs, mais c'est impressionnant, quand même. Et bien, vous avez des personnes qui vont redéfinir ce qu'est la religion pour eux. Ouais. Elles vont se dire, mais moi, l'Église me dit que le péché d'orgueil, c'est quelque chose de mal. Je vais donner mon corps à la science. Parce que j'aurai une sépulture à minima et je serai dans l'anonymat. Et on renoue avec quand même les valeurs un peu bibliques. Après, plus prosaïquement, je veux dire, l'Église, c'est quand même l'aide sur autrui. Hein. C'est pas parce que vous aidez pas une personne directement que vous aidez pas l'humanité. Donner son corps à la science, c'est aussi une façon de renouer avec ces valeurs essentielles du christianisme. Je suis pas pro-christianisme. Je crois qu'il me reste pas beaucoup de temps. Tac, 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 on passe à la croyance. Alors, conclusion, je me suis éclaté sur la conclusion. On voit pas grand chose, mais je me suis éclaté. Alors en fait, j'ai fait un parcours logique. J'aurais dû mettre des pismes, mais j'ai mis des probabilités, mais j'aurais dû mettre des pismes. Si, pour faire un espèce d'idéal type, pour essayer de présenter l'idéal type où la personne qui a le plus de chances de donner son corps à la science. Alors déjà, pour donner son corps à la science, ça paraît évident. Faut savoir qu'on va mourir. Non mais, bon, les directives anticipées, je présume que personne ne s'est occupé de comment ça allait se passer quand il sera mort ici. Ouais, t'es toute seule, quoi. Non mais voilà, non, mais, pour donner l'exemple. Donc grosso modo, prise de conscience de la mort, quand on commence à être un petit peu malade, quand on commence à être fébrile, quand on va à l'hôpital, quand on frôle la mort. Logique. Donc si vous voulez donner votre corps à la science, il faut que la personne sache qu'elle va mourir. C'est pas facile. Hein. Après, l'influence du sexe. L'influence du sexe, on a vu que qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ça change pas grand chose. Les hommes et les femmes donnent proportionnellement autant leur corps à la science. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que le sexe, il va déterminer l'âge du don du corps. J'aurais dû mettre des petits smiles, je vous le disais, c'est tout à fait aléatoire les valeurs que j'ai mises dedans. Mais grosso modo, les femmes auront tendance à donner leur corps à la science plutôt que les hommes. C'est une chose qu'on peut savoir. Ensuite, au niveau de l'origine sociale, on peut dire que les personnes qui sont le plus à même de donner leur corps à la science, classe moyenne et classe supérieure, classe populaire, ça va être de moins en moins le cas, et indigents, c'est d'office exclu puisqu'ils n'ont pas de quoi payer. Le passif médical, si vous avez un fort passif médical, vous savez que vous allez mourir, et vous avez la reconnaissance d'une dette envers l'institution médicale. Mais plus que ça, et ça n'a pas sa place ici, mais je l'ai mis quand même, le passif médical, c'est hyper important parce que si vous allez systématiquement à l'hôpital, vous avez plus de chances d'entendre parler du don du corps que si vous restez chez vous. Les informations sur le don du corps, vous les trouvez, alors majoritairement chez les personnes que j'ai interrogées, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux ou la famille. Et après, c'est un petit peu la presse. Chez votre médecin, pharmacie, vous n'avez jamais rien. Donc ça influence la probabilité de le trouver. Les personnes qui ont été mobiles. Les personnes qui ont été mobiles, qui ont une forte mobilité résidentielle, sont les personnes qui sont le plus préposées à donner leur corps à la science. Mais par-delà la mobilité des personnes, c'est aussi la mobilité de leurs enfants. Si les enfants sont mobiles, et là pour vos parents, nous tous, vos parents commencent à voir qu'on va tous être obligés de bouger un petit peu, qu'il y a une forte mobilité, plus les enfants sont mobiles, et plus on a été soi-même mobile, plus la probabilité de donner son corps à la science est augmentée. Et enfin, sur la religion, c'est complètement aléatoire, mais juste pour marquer que c'était juste pour faire remarquer que le christianisme, ça n'empêchait pas le don du corps. C'est plus compliqué, le régime de justification est plus poussé, mais ça n'empêche pas du tout le don du corps. Et après, c'est vrai que je vous en avais pas parlé, vous avez tout ce qui est un peu déiste et tout ça, les croyances un petit peu spirituelles, les étoiles, les machins. C'est... Non mais ça joue, mine de rien, ça se base un petit peu quand même sur le tout le reste, quoi. Et donc à la fin, bah, vous avez l'idéal type, une personne qui pourra donner son corps à la science en fonction des facteurs. Et après, il y a plein d'autres trucs, mais bon, je vais arrêter, parce que je crois que c'est bon. Donc, si vous avez...